Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la dystonie cervicale. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marion Simonetta Moreau. Docteur Simonetta Moreau, bonjour.
Bonjour.
Docteur Simonetta Moreau, vous êtes neurologue, praticien au sein du service de neurologie dans l'unité de consultation spécialisée des mouvements anormaux de l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse. Vous êtes professeur associé de neurophysiologie à l'université Paul Sabatier à Toulouse et vous avez une grande expertise des dystonies. Alors, docteur Simonetta Moreau, ma première question est très simple et très directe. Qu'appelle-t-on dystonie cervicale ?
Eh bien, la dystonie cervicale, c'est en fait une forme focale de dystonie qui touche en fait les muscles cervicaux et la ceinture scapulaire, les épaules parfois. En fait, c'est une pathologie qui fait partie d'un ensemble assez hétérogène de maladies qu'on appelle plus volontiers les dystonies actuellement, parce qu'en fait, ça regroupe un grand nombre de formes cliniques différentes qui sont fonction de l'âge avec laquelle les symptômes de dystonie vont débuter, de la localisation. Donc là, aujourd'hui, on va parler évidemment du cou. Mais en fait, le symptôme dystonie peut toucher tous les muscles et peut parfois être généralisé à tous les muscles. Et puis, ça dépend aussi, bien sûr, de la présence ou non d'autres signes neurologiques associés. Et puis aussi d'autres données qui vont faire que, sur le terme de dystonie, en fait, c'est un terme assez générique, mais la dystonie focale cervicale, c'est la plus fréquente des formes focales de dystonie de l'adulte. Bien sûr que c'est une pathologie qui n'est pas très fréquente. Son incidence est estimée à environ 8 cas par million de personnes et par an. En général, la dystonie cervicale, en fait, ça commence plutôt vers l'âge de 40-50 ans. Il y a une nette prédominance féminine avec un ratio de 1,7 femmes pour un homme. C'est une pathologie qui, le plus souvent, on dit qu'elle est idiopathique. Ça veut dire qu'en fait, on ne trouve pas de cause. Et ça veut dire que l'examen neurologique, en dehors des symptômes de dystonie au niveau du cou, il est strictement normal. Et si on fait de l'imagerie, une IRM, elle va être normale. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Mais maintenant, la dystonie cervicale, on peut aussi la rencontrer dans d'autres contextes. Ça peut être d'origine génétique. Donc, il y a tout un tas de mutations qui sont retrouvées depuis de nombreuses années. Et puis, ça peut aussi apparaître après une lésion du système nerveux central. Donc, par exemple, un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou bien une souffrance à la naissance. Donc ça peut donner aussi des dystonies cervicales. Donc évidemment, le contexte est un peu différent parce que souvent, l'examen, il n'est pas normal. Ça peut aussi apparaître quand on prend des médicaments. Donc ça peut être favorisé par la prise de neuroleptiques, par exemple, donc chez des patients qui sont suivis par les psychiatres. Et puis enfin, ça peut aussi s'intégrer dans des maladies neurologiques neurodégénératives, comme les maladies de Parkinson ou apparentées. On peut avoir bien sûr des symptômes de dystonie cervicale dans ces cas-là, ou des maladies métaboliques, mais là on est vraiment dans un autre cadre.
Et quelles sont les principales manifestations cliniques de dystonie cervicale ?
Alors sous plan clinique, en fait c'est assez facile à diagnostiquer, enfin du moins quand on en a vu une fois, en général on y pense, parce que en fait c'est un patient qui va présenter des signes moteurs, il va arriver à la consultation, et il va se plaindre de contractions musculaires involontaires qu'il ne peut pas contrôler ou très difficilement. Ces contractions, elles peuvent être assez soutenues, donc ça peut être des spasmes qui peuvent être soit toniques, soit au contraire des petites secousses musculaires brèves. Et donc en fait, ces spasmes au niveau des muscles du cou, ils vont être responsables de mouvements répétés ou bien des postures anormales, et parfois il peut aussi y avoir un tremblement. Le patient aussi, il peut aussi se plaindre de douleurs, parce qu'évidemment, quand on a des muscles du cou qui se contractent quasiment en permanence ou de façon très importante, ça peut générer des douleurs qui peuvent être parfois au premier plan. Et puis le patient, il va être sur le plan social, il va être un petit peu perturbé parce que ça se voit. Hein, quand on a des mouvements involontaires de la tête et du cou, quand on est en public, ça va être difficile à cacher. Et donc souvent, le patient aussi, il va avoir une répercussion sur le plan psychologique. Donc après, le médecin, s'il est face à ce type de symptômes, en fait, il y a beaucoup de formes cliniques, parce qu'en fait, la tête, ça peut bouger dans les trois directions, hein, donc dans plusieurs plans, en 3D. Et donc le plus souvent, en fait, c'est le patient, il va avoir un mouvement de rotation de la tête, soit vers la droite, soit vers la gauche. qu'il a du mal à contrôler. Alors parfois, il peut un peu limiter ses mouvements. Ça s'appelle le geste antagoniste. Ça, c'est typique de la dystonie cervicale. C'est-à-dire que s'il se touche le menton, par exemple, eh bien, il peut transitoirement contrôler son mouvement anormal. Mais évidemment, quand la dystonie va être très sévère, ça va pas suffire et puis ça marche pas chez tous les patients. Ou bien au contraire, la tête, elle peut s'incliner latéralement vers une épaule et on peut voir que l'épaule, elle est un peu ascensionnée. Donc on va avoir une espèce d'asymétrie de posture. Et d'ailleurs, souvent, parfois, enfin, il faut chercher des signes de scoliose. C'est des patients qui ont des troubles posturaux. Ou bien au contraire, ça va être dans le plan axial, c'est-à-dire que le patient, il va avoir des mouvements soit vers l'avant, donc il va avoir la tête qui va bouger vers l'avant, ou au contraire vers l'arrière. Et en fait, la plupart du temps, il y a une combinaison dans les trois plans de l'espace de ces spasmes. Mais souvent, il va y avoir donc une association d'une rotation, un petit peu d'inclinaison ou un petit peu de la tête qui penche en arrière. Et puis, on peut aussi avoir des petites finesses, c'est-à-dire qu'en fait, la tête et le cou, généralement, ils ont des mouvements qui sont coordonnés, mais parfois ça peut se dissocier. Et donc, par exemple, on peut avoir la tête qui part en avant alors que le cou ne bouge pas. Et ça peut aussi s'associer à un tremblement. Donc, parfois, il y a des formes qui sont presque trémulantes pures. Donc, le patient, il vient me consulter et il dit « j'ai la tête qui tremble depuis un certain temps, c'est pas tout le temps ». Et puis, si vous l'examinez bien, en fait, vous voyez que non seulement la tête tremble, mais elle est un tout petit peu déviée sur le côté. Ou bien, quand on palpe les muscles du cou, on va voir qu'il y a un des muscles qui va être un peu plus contracté d'un côté par rapport à l'autre.
Et en termes de physiopathologie, cette fois, quel est le mécanisme de survenue de la dystonie cervicale ?
Alors, la physiopathologie de la dystonie, c'est pas encore parfaitement connu, bien qu'il y ait de très, très nombreux travaux de recherche depuis 30 ans. C'est une maladie qui est rare, mais c'est une maladie qui est quand même très étudiée à la fois par des méthodes d'imagerie fonctionnelle et puis par des méthodes d'électrophysiologie. Et en fait, c'est une maladie qui est multifactorielle. C'est-à-dire que souvent, pour qu'elle apparaisse, il faut plusieurs facteurs favorisants. Donc, il y a des facteurs génétiques. Alors, bon, parfois, il y a effectivement des mutations qui sont mises en évidence, mais souvent, c'est probablement un profil génétique particulier qu'on ne sait pas toujours encore bien mettre en évidence. Ensuite, on sait que dans cette maladie, globalement, il y a un déficit de tous les mécanismes inhibiteurs de contrôle de la motricité. Hein, parce qu'en fait, quand on contracte un muscle ou un groupe de muscles dans le cerveau, il y a en même temps tout un système automatique qui permet d'inhiber la contraction des muscles qui ne sont pas utiles. Mais en fait, dans cette maladie, il y a une désorganisation, un déficit de ces mécanismes d'inhibition, ce qui explique qu'il y a une contraction musculaire qui va être exagérée, qui va être inappropriée. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des facteurs environnementaux, donc après un traumatisme, etc. Et il y a, depuis une quinzaine d'années, il y a aussi beaucoup de travaux qui montrent que c'est un joli modèle d'anomalie de ce qu'on appelle la plasticité corticale. Vous savez que le cerveau, il est en perpétuelle évolution, rien n'est figé, et donc il y a des mécanismes de plasticité au niveau synaptique, au niveau des synapses sensorimotrices en particulier, qui interviennent dans le contrôle du mouvement, dans l'apprentissage, et on a pu montrer de façon assez jolie par de nombreuses expériences, qu'en fait, cette plasticité, elle est perturbée, elle est déréglée chez ces patients. Il y a beaucoup d'études qui sont assez récentes, parce que en fait, pendant plusieurs années, on pensait que c'était essentiellement aussi une maladie des noyaux gris centraux, qui contrôlent beaucoup la motricité, mais de plus en plus, en fait, actuellement, on se rend compte que la dystonie, c'est une maladie de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un dysfonctionnement global dans tout le réseau des circuits impliqués dans le contrôle du mouvement et de la posture.
Et en pratique de ville, parmi la symptomatologie que vous avez très bien décrite, quels sont les principaux signes d'alerte à garder en tête et qui doivent faire évoquer une dystonie cervicale ?
C'est vraiment un patient qui vient parce qu'il a ses mouvements incontrôlés de la tête et du cou qui va lui entraîner donc une posture qui va être vicieuse, qui ne va pas être normale. Et par exemple, alors il va peut-être essayer de les contrôler, ce qui fait que parfois le patient, quand vous l'avez en consultation, il faut savoir l'examiner assis, mais aussi debout et aussi allongé, parce que parfois les symptômes, ils vont être visibles que allongés. Donc s'il oublie de vous le dire, vous allez passer à côté. Il faut aussi lui demander de fermer les yeux, parce que quand on ferme les yeux, en fait on contrôle moins ces mouvements et ils apparaissent facilement. Donc les signaux d'alerte, c'est vraiment ces spasmes ou ces tremblements de la tête dans une direction ou dans plusieurs directions, associés à des contractions musculaires des muscles du cou à la palpation, des douleurs et puis un retentissement social parfois, qui est même important, hein, parce qu'en fait c'est quand même une maladie très handicapante au quotidien, à son travail, socialement. Ça peut être masqué par un syndrome anxio-dépressif. En pratique, un médecin généraliste, je pense qu'il va, dans sa patientèle, il va en voir 3 ou 4 dans sa vie. Donc c'est pas très très fréquent pour un médecin généraliste, mais il est important de ne pas passer à côté parce qu'il y a des traitements qui vont soulager le patient.
Et dans ce cas, docteur Simonetta Moreau, que faire dans cette situation lorsqu'on est face à un patient chez qui on suspecte une dystonie cervicale ?
Je crois que la première chose à faire, c'est de l'adresser à un neurologue d'un centre expert mouvements anormaux, du CHU ou du CHG le plus proche. Donc ça veut dire un neurologue qui pratique les injections locales de toxines botuliques. C'est un traitement qu'il faut quand même commencer le plus tôt possible, puisqu'il permet la plupart du temps de soulager les patients. Et donc tous les neurologues, que ce soit du privé ou du public, ne savent pas, ne sont pas formés à ce traitement. Donc souvent, il ne faut pas perdre de temps, en fait, parce que plus on traite tôt, et meilleur sera le pronostic. Et alors que souvent, il faut souvent 5 ou 6 ans, hein, il y a encore malheureusement encore beaucoup de retard au diagnostic. En moyenne, je crois que le patient qui vient nous voir à ma consultation, il a déjà vu au moins 3 praticiens avant d'arriver à la mienne, donc c'est beaucoup trop. Donc effectivement, pour un médecin généraliste, s'il suspecte ça, il faut qu'il l'adresse à un centre expert directement, un neurologue spécialiste de mouvements anormaux.
Eh bien, merci mille fois, docteur Simonetta Moreau, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la dystonie cervicale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !